Salut à tous et bienvenue dans Mise en Page, je suis ravi de vous retrouver pour une nouvelle émission qui va nous faire voyager aujourd'hui grâce à l'univers d'Isaac Bashevis-Zinger. J'ai choisi effectivement aujourd'hui de lire avec vous Le Magicien de Lublin. Je l'avais lu il y a un petit bout de temps et puis je l'ai retrouvé, j'ai eu un grand plaisir à le relire. Si vous ne connaissez pas Isaac Bashevis-Zinger, eh bien sachez qu'il est né en 1904 en Pologne. Et c'est un des maîtres de la littérature yiddish. Il a vécu aux États-Unis la majeure partie de sa vie et ses nombreux romans, nouvelles et contes lui ont valu notamment le prix Nobel de littérature en 78. Il est décédé en 1991. Alors c'est tout un univers yiddish bien sûr. On se croirait un peu dans un tableau de Chagall quand on lit Zinger. Il y a tellement d'humour. On l'a vu justement à travers Schlemm, cette petite ville de Schlemm avec tous ces personnages un peu étonnants, beaucoup d'humour et puis un humour un peu désespéré avec dans ce justement ce roman là Le Magicien de Lublin un personnage, il y a Chamazur qui est magicien et qui en a assez de vivre en Pologne, il rêve de partir aux États-Unis, en France, pourquoi pas, on est au début du XXe siècle. Et puis il a une vie de fanfaron entre une maîtresse ici, une autre là, et le parcours ne va faire que grandir, et finalement, en grandissant, ne va faire que sombrer. Et c'est une sorte d'anti-roman d'apprentissage, en fait. Normalement, les contes sont toujours positifs. Ici, c'est pas le cas. Donc, bienvenue dans ce Magicien de Lublin d'Isaac Bashevis-Zinger, qui commence donc ainsi. Ce matin-là, il y a Chamazur, connu sous le nom du magicien de Lublin partout ailleurs que dans la ville où il résidait, s'éveilla de bonne heure. Il passait régulièrement un jour ou deux dans son lit en rentrant d'une tournée. La fatigue justifiait à ses yeux la nécessité d'un sommeil prolongé. Sa femme, Esther, lui apportait des galettes, du lait, du gruau d'avoine. Il mangeait et s'assoupissait de nouveau. Le perroquet poussait des cris perçants. Yoktan, le singe, babillait, les canaris sifflaient et lançaient des trilles. Mais Yasha n'en avait cure et rappelait simplement à Esther qu'elle devait donner à boire aux juments. La recommandation était superflue. Esther n'oubliait jamais d'aller puiser de l'eau pour Kara et Shiva, les deux juments grises que Yasha avait surnommées Poussière et Cendre. Tout magicien qu'il fût, Yasha passait pour riche. Il avait une maison avec grange, silos, écuries, greniers à foin, une cour avec ses deux pommiers et même un jardin où Esther cultivait des légumes. Il ne lui manquait qu'une chose, des enfants. Esther ne pouvait pas en avoir. Cela ne l'empêchait pas d'être par ailleurs une bonne épouse. Elle savait tricoter, confectionner une robe de mariée, préparer du pain d'épices et des tartes, vider un poulet, poser ventouse ou sangsue, et même saigner un malade. Quand elle était plus jeune, elle avait essayé toutes sortes de remèdes pour vaincre sa stérilité, mais à présent, il était trop tard. Elle approchait de la quarantaine. Comme tous les magiciens, Yasha n'était guère estimé par la communauté. Il ne portait pas la barbe et n'allait pas à la synagogue que les jours de Rosh Hashanah et de Yom Kippour. Encore fallait-il qu'il fût à Lublin à ces moments-là.
Finkeltanzenglanz, gib ab auf die Puste Flasch, hoi hoi, in irgendeiner Tanz, in irgendeiner Tanz. Hoi hoi, dicker sieht hat mir bei die Hand, flechten Begler die Füße, die nicht schnurren. Hoi hoi, dicker sieht hat mir bei die Hand, flechten Begler die Füße, die nicht schnurren. Was mir Schwieger wär mir weib, hoi hoi, was ihr seid ich leck. Was ihr seid, ich leck. Mit echten Kelch, ich wein. Hoi, hoi, schwimmen sei er weg. Schwimmen sei er weg. Hoi, hoi, dicker sieht hat mir bei die Hand. Flirten Begler, die Füße, die nicht schnurren. Hoi, hoi, dicker sieht hat mir bei die Hand. Flirten Begler, die Füße, die nicht schnurren.
steiges wer mir sorg. Oh jei, ich truf nicht für die Reit, ich truf nicht für die Reit. Gib mir gar kein Ju, oh Bord. Oh jei, Gott schat troppen freid, Gott schat troppen freid. Oh jei, zick ihr sie, tat mir bei die Hand. Vielleicht ein Begeler, die Füße, die nicht schon verbrennt. Regeler die Füße in die Schuhe brennt. Wenn ich nimmer wisse die Jagd, oh jei, bin ich gut nicht der, bin ich gut nicht der. Gib aber die Puste, Flasch, oh jei, in ihr gehe Scher, in ihr gehe Scher, in ihr gehe Scher.
C'est avec grand plaisir qu'aujourd'hui je vous invite à partager un petit voyage du côté de la Pologne du début du siècle en compagnie du magicien de Lublin, écrit par Isaac Bashevisinger. Nous sommes au début du roman. Après avoir paraissé 2 jours dans son lit, Yasha ce matin-là se leva avec le soleil. C'était un homme trapu, large d'épaule, avec des hanches étroites, une chevelure rebelle, d'un blond pâle, et des yeux d'un bleu délavé. Les lèvres étaient minces, le menton étroit, le nez de type slave. L'œil droit était légèrement plus ouvert que le gauche, ce qui donnait au regard une expression de malice insolente. Yasha avait maintenant 40 ans, mais paraissait 10 ans plus jeune. Entre deux de ses orteils, qu'il avait presque aussi longs et souples que les doigts, il était capable de placer une plume et de signer son nom assorti d'un paraphe. Toujours avec ses orteils, il pouvait aussi écosser des poids. Il savait encore fléchir son corps dans n'importe quelle direction. On disait qu'il avait les os flexibles et des articulations élastiques. Il donnait rarement un spectacle à Lublin, mais les quelques personnes qui avaient assisté à ses tours ne tarissaient pas d'éloges sur son talent. Yasha marchait sur les mains, mangeait le feu, avalait des épées, faisait le saut périlleux comme un singe. Son adresse était inimitable. Il se laissait enfermer dans une pièce, la nuit, après qu'on eut bloqué la serrure de l'extérieur. Le lendemain matin, on pouvait le voir flâner nonchalamment sur la place du marché, alors que, sur la porte, la serrure était intacte. Il pouvait même réussir cela pieds et mains liés. Certains prétendaient qu'il pratiquait la magie noire et possédait une coiffe qui le rendait invisible et lui permettait de passer à travers les fissures d'un mur. D'autres disaient qu'il était simplement un maître illusionniste. Au sortir du lit, Yasha ne versa pas de l'eau sur ses mains, comme il aurait dû le faire. Il ne récita pas non plus ses prières du matin. Il revêtit un pantalon vert, une veste de velours noir rehaussée de sequins d'argent et se chaussa de pantoufles rouges. Tout en s'habillant, il gambadait, faisait le clown comme un écolier, sifflait en direction des canaris, s'adressait à Hoktan le singe, à Haman le chien ou à Metzots le chat. Il constituait une partie simplement de sa ménagerie. Dans la cour, il y avait un paon et une ponne, une paire de dindons, de nombreux lapins et même un serpent qu'il fallait nourrir tous les 2 jours d'une souris vivante. C'était une chaude matinée, juste avant Shavuot. Des pousses vertes avaient déjà fait leur apparition dans le jardin d'Esther. Yasha ouvrit la porte de l'écurie et entra. Il aspira profondément l'odeur de crottin et caressa les juments. Puis il les étria et donna à manger aux autres bêtes. Parfois, quand il rentrait d'une tournée, il ne retrouvait plus l'un de ses animaux favoris. Mais cette fois, il n'y avait pas eu de mort. De bonne humeur, il flânait sans but à travers sa propriété. L'herbe dans la cour était verte, parsemée d'une multitude de fleurs, les jaunes, les blanches, des mouchetées, encore en bouton. Chaque souffle de la brise lui en apportait les senteurs. Broussailles et chardons atteignaient presque le toit des dépendances. Des papillons voletaient, ça et là, et des abeilles bourdonnaient de fleur en fleur.
Nirte man sich in meine Kinderjugend winkt wie ein Hulem, wird mir alles vor. wie seht euch durch die Welle, du's wie Glanz in du's Heimale, wo sich ob gepflanz, oi, 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 Belz, mein steht alle Belz, mein Heimale dort, ich ob meine Kinder, Zerfall die Fenster los. Der Ganek ist grimm, sie bohren die Welt, ihr wohnt schon mehr nicht erkennt. Oi, 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 Welt, mein steht alle Welt, mein Heim alle dort, wie
en page. Aujourd'hui, voyage avec Isaac Bashevis-Singer, le magicien de Lublin. La maison se trouvait à la sortie de la ville et Yasha pouvait apercevoir d'immenses champs de blé, encore verts. Dans 6 semaines, ils seraient jaunes d'or, prêts pour la moisson. Qui créait tout ceci ? Yasha s'interrogeait. Était-ce le soleil ? Dans ce cas, peut-être le soleil était-il Dieu ? Yasha avait lu dans un livre sacré qu'Abraham avait idolâtré le soleil avant de reconnaître l'existence de Jéhovah. Non, il n'était pas lettré. Son père avait été un homme instruit. Yasha avait même étudié le Talmud dans son enfance. À la mort de son père, on lui avait conseillé de poursuivre ses études, mais il avait préféré rejoindre un cirque ambulant. Il se sentait à moitié juif, à moitié gentil, ni juif, ni gentil. Il s'était forgé sa propre religion, il existait un créateur, mais qui ne se révélait à personne, ne donnait pas d'indication sur ce qui était permis ou défendu, ceux qui parlaient en son nom étaient des menteurs. Esther s'affairait à lui préparer son déjeuner, un petit pain sec avec du beurre et du fromage de ferme, des échalotes, des radis, un concombre, du café qu'elle avait moulu elle-même et infusé au lait. Esther était petite et brune. Son visage était jeune avec un nez droit, des yeux noirs, dans lequel se reflétaient aussi bien la joie que les soucis. Il arrivait que son regard prît une expression malicieuse quand elle souriait. Le retroussi espiègle de la lèvre supérieure découvrait les petites dents et ses joues se creusaient de fossettes. Comme elle était sans enfant, Esther recherchait la compagnie des jeunes filles plutôt que celle des femmes mariées. Elle employait deux couturières avec lesquelles elle plaisantait tout le temps. Mais, disait-on, lorsqu'elle se trouvait seule, elle pleurait. Dieu avait scellé ses entrailles, comme il est écrit dans la Pentateuque. Le bruit courait qu'elle dépensait une grande partie de son gain chez les charlatans et les faiseurs de miracles. Une fois, elle s'était écriée en pleurant qu'elle enviait même les mères dont les enfants étaient au cimetière. Elle servit son déjeuner à Yasha, assise en face de lui, sur le banc. Elle l'observait d'un regard oblique et évaluait avec curiosité. Elle ne le tracassait jamais tant qu'il n'avait pas récupéré de sa tournée, mais ce matin, rien qu'à voir le visage de Yasha, elle sut que la période de repos avait pris fin. Leur fréquente séparation avait marqué leur rapport. Ils n'avaient pas l'intimité propre au couple depuis longtemps marié. Les propos anodins d'Esther auraient pu être échangés aussi bien avec un interlocuteur de rencontre. « Eh bien, quoi de neuf dans ce vaste monde ?»« C'est toujours le même vieux monde. » »« Et les tours de magie ?»« Ce sont toujours les mêmes vieux tours. » »« Et les filles ?»« Y a-t-il eu là des changements ?»« Quelles filles ?» Il n'y en a pas. Non, non, naturellement. J'aimerais bien avoir 20 pièces d'argent pour chaque fille que tu as eue. Que ferais-tu avec une telle somme ? Demanda-t-il en lui adressant un clin d'œil. Puis il retourna à son repas et tandis qu'il mâchait les aliments, son regard se perdait au loin, au-delà d'Esther. Ses soupçons ne la quittaient jamais. Mais il n'admettait rien. Et il lui assurait, après chaque tournée, qu'il croyait en un seul Dieu et une seule femme. Ceux qui courent après les femmes ne marchent pas sur des cordes raides. Ils trouvent déjà assez difficile de se traîner au ras du sol. Tu le sais aussi bien que moi. C'était son argument. Comment donc le saurais-je ? Demanda-t-elle. Quand tu vas par les chemins et ne me tiens pas au pied de ton lit. Le sourire qu'elle lui adressa exprimait à la fois son affection et ses reproches. Yasha ne pouvait pas être surveillé comme d'autres maris. Il passait plus de temps sur les routes qu'à la maison. Il rencontrait toutes sortes de femmes au cours de ses vagabondages qui le conduisaient plus loin qu'un bohémien. Oui, il était aussi libre que le vent, mais Dieu merci, il lui revenait toujours, et toujours avec un cadeau à la main. L'ardeur avec laquelle il l'embrassait et l'étreignait faisait croire qu'il avait mené une vie de saint pendant son absence. Mais que pouvait savoir une simple femme de l'appétit d'un homme ? Souvent, Esther regrettait d'avoir épousé un magicien plutôt qu'un tailleur ou un savetier qui restait à la maison toute la journée et qu'on avait constamment sous les yeux. Mais son amour persistait. Il était pour elle un fils et un mari à la fois. Chaque jour qu'elle passait avec lui était un jour de fête. Esther continuait à l'étudier pendant qu'il mangeait, à bien réfléchir. Il se comportait autrement que le commun des mortels. Il s'arrêtait brusquement de manger pour se plonger dans ses pensées, puis il se remettait à mâcher. Autre habitude bizarre, il manipulait un bout de fil avec lequel il faisait comme machinalement des nœuds. Mais son habileté était telle qu'un espace égal séparait chaque nœud. Esther le regardait souvent dans les yeux, avec l'espoir d'en pénétrer le secret. Mais l'impassibilité de Yasha déjouait sa manœuvre. Il dissimulait beaucoup, parlait rarement avec sérieux. N'étalait jamais ses contrariétés. Même malade, il tournait en rond, brûlant de fièvre, et Esther n'était pas plus avancée. Souvent, elle le questionnait sur ses représentations qu'il avait rendues célèbres dans toute la Pologne. Mais alors, ou bien il détournait la question par une brève réponse, ou l'éludait par une plaisanterie. Parfois, il eut à Moigny la plus grande familiarité, mais aussitôt après, il se comportait en étranger, inlassablement à l'essayer d'interpréter actes, paroles et gestes de Yasha. Même dans ses moments d'exubérance, alors qu'il babillait comme un écolier, tout ce qu'il disait avait une signification. Quelquefois, c'était seulement après son départ, alors qu'il avait une fois de plus pris la route, qu'Esther comprenait ce qu'il avait dit.
Schlufsche mir schein Jankele, mein Scheiner, die Äugele, die Schwarzinke macht sie. Ein Jingele, wo's hat schon alle Zeinlöch, mis nach die Mamme singen ein Juliu. Ein Jingele, wo's hat schon alle Zeinlöch, müssen noch die Mamme singen, heil Juliu. Ein Jüngele, was hat schon alle Zeinlich, und wird mit dem Masel bald in Heider gein, und lernen wird der Chimisch ungemore, soll weinen, wenn die Mamme wiegt im Main. Und lernen wird der Chimisch ungemore, soll weinen, wenn die Mamme wiegt im Ein. A Jingele, was lernen wird gemore, hat steigt der Tate quält und hört sich zieh. A Jingele, was wächst der Tal mit Huchen, lasst ganze Nacht der Mama nicht in Rieh. A Jingle, wo's wächst a Tal mit Huchen, los ganze Nacht der Mama nicht in Rieh. Ja, da dei, 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 nicht lufsche mir schon Jankele, mein Scheiner, die Eugele, die Schwarzinke macht sie. Ein Jingle, was hat schon alle Zeinlöch, mis nach die Mamme singen, ein Juliu. Ein Jingle, was hat schon alle Zeinlöch, mis nach die Mamme singen, ein Juliu.
Aujourd'hui dans Mise en page, et sur vos radios limousines associatives préférées, Radio Vassivière, RTF Limoges, RPG Guéret, et puis un peu partout sur Internet, eh bien, un spécial avec Isaac Bashevis-Singer, le magicien de Lublin, une œuvre très connue, sans doute la plus connue de Singer. Je vous rappelle cet homme qui a eu en 78 le prix Nobel, décédé en 91, et le bruit des pages que vous entendez en ce moment, bah oui, le micro est sensible, c'est simplement moi qui tourne les pages pour essayer de chercher quand a été édité pour la première fois ce livre, et je vous trouve le titre exact, donc la date exacte, pardon, c'était en 1960, exactement. Voilà, peut-être entendez-vous aussi des petits oiseaux. Vous écoutez ça, ben oui, parce que j'enregistre près d'une fenêtre où les oiseaux chantent, donc ne vous étonnez pas si la lecture est accompagnée de quelques pépiments d'oiseaux et quelques sifflotis de rouge-gorge et autres moineaux. Bref, continuons avec Isaac Bashevis-Singer, le magicien de Lublin. Nous sommes au chapitre 2 du roman. Yasha, le magicien, vit avec sa femme. Ses tournées ont eu lieu. Bref, on comprend qu'il a une double vie, double simplement, peut-être bien triple, voire quadruple. Et Yasha a besoin de bouger. Juif, certes, mais pas vraiment. Un homme qui doute, qui n'est pas très croyant, un peu mécréant sur les bords. Bon, un personnage intéressant, Yasha, mais qui a envie de bouger, et c'est ce qu'il va faire d'ailleurs. Il va vouloir partir en tournée, et son rêve, c'est d'aller à l'étranger, les États-Unis, Paris, pourquoi pas, quitter la Pologne. Et on sent que cette bougeotte est en train de prendre forme. Il était midi, et la taverne de Bella était presque déserte. Bella sommeillait dans l'arrière-boutique, et le bar était tenu par Zipporah, la petite serveuse. Au sol, on avait répandu de la sueur fraîche. Sur le comptoir étaient exposés de l'oie rôtie, du pied de veau engelé, des tranches de hareng, des galettes aux œufs, des bretzels. Yasha s'assit à une table avec Shmuel, le musicien. Un homme imposant, avec une chevelure noire en broussailles, des yeux sombres, une touffe de barbe de chaque côté du visage et une fine moustache. Il était vêtu à la russe, blouse de satin, ceinture à gland et bottes montantes. Pendant plusieurs années, Shmuel avait travaillé pour un noble de Jytomyr, mais il s'était compromis avec la femme de l'intendant et avait dû s'enfuir. Considéré comme le meilleur violoniste de Lublin, il le jouait toujours aux mariages les plus huppés. Actuellement, dans la période comprise entre la Pâque et Shavuot, on ne célébrait pas de mariage. Devant Shmuel était posé un gobelet de bière. L'homme s'appuyait au mur, ses yeux globuleux contemplaient fixement le breuvage comme si Shmuel hésitait à boire. Sur la table se trouvait un petit pain et sur le petit pain une grosse mouche vert et or qui semblait tout aussi incapable de prendre une décision. Devait-elle s'envoler ou non ? Yasha n'avait pas encore goûté sa bière, il semblait fasciné par la mousse. Une à une, les bulles se dissipaient dans le verre rempli jusqu'au bord, jusqu'à ce qu'il ne fût qu'aux trois quarts plein. Yasha murmura « Mystification, mystification, bulle, bulle ». Shmuel venait juste de se vanter de l'une de ses aventures amoureuses. Maintenant, avant la fin de cette histoire, il est le commencement d'une autre. Les deux hommes restaient assis, en silence, perdus dans leurs pensées. Yasha aimait entendre les histoires de Shmuel. Il aurait pu lui rendre l'appareil s'il avait voulu, mais le plaisir qu'il avait pris à l'histoire de Shmuel était mitigé. Il s'y ajoutait comme l'effet d'une morsure intérieure, le sentiment d'un doute insidieux. « À supposer qu'il raconte la vérité, » pensa Yasha. « Qui, alors, abuse qui ?» À haute voix, il dit « Pour moi, vous ne paraissez pas avoir remporté une victoire. Vous avez capturé un soldat qui désirait se rendre. » Eh bien encore, faut-il les prendre au bon moment. À Lublin, ce n'est pas aussi facile que vous croyez. Vous voyez une fille, elle vous désire, vous la désirez. Le problème est de savoir comment le chat peut franchir la barrière. Vous êtes, disons, à un mariage. Quand c'est terminé, elle rentre chez elle avec son mari. Et vous ne savez pas où elle habite. Si vous le saviez, à quoi cela servirait-il ? Il faudrait compter avec sa mère, sa belle-mère, ses sœurs, ses belles-sœurs. Vous n'avez pas de tels problèmes, Yasha. Une fois franchi les portes de la ville, le monde vous appartient. Très bien. Ben, partez avec moi. Vous m'accepteriez. Je ferai plus. Je paierai vos dépenses. Ah, fort bien. Mais que dirait Yentel ? Quand un homme a des enfants, il n'est plus libre. Vous ne voulez pas me croire, mais les petits me manqueraient. Je quitte la ville pour quelques jours, je suis à moitié fou. Pouvez-vous comprendre cela ? Moi ? Je comprends tout. Malgré vous, vous êtes tenu. C'est comme si vous preniez une corde et que vous vous attachiez avec. Que feriez-vous si votre femme se comportait comme celle dont vous venez de me parler ? Le visage de Shmuel devint soudain grave. « Croyez-moi, je l'étranglerai !» Il porta le gobelet à ses lèvres et en vida le contenu. « Eh bien, il est comme tous les autres, » pensa Yasha, en absorbant sa bière à petite gorgée. « Nous en sommes tous là. Le problème est de savoir comment s'y prendre. »
Diese Kinderjahren. Eibig bleibt ihr wach in mein Sikoren. Wenn ich Nacht, wenn ihr seid, wird mir also bang und leid. Oi, wie schnell bin ich schon alt geworden. Noch seh ich das Stiebel paar die Augen. Wo ich bin geboren, euch gezeugen. Euch mein Wiegel seh ich dort, steht nach auf demselben Ort. Wie a Cholem ist das als verfleugen. Und mein Mame, ach, ich pflege sie lieben. Gott, sie hat in Cheder mich getrieben. Jeder Knieb ist wie in ihr Hand, mir nachher so gut bekannt. Gott, kein Zeichen ist mir nicht verblieben. Noch seh ich dich feig, alle du Scheine. Noch kusch ich die Reite, begalach deine. Deine Augen voll mit Chein bringen in mein Herz rein. Hab gemeint, amal du nicht sein meine. Kinderjahren, junge, schöne Blumen. Zurück zu mir wird ihr schon mehr nicht kommen. Jahren alte, treurige, kalte Meure, schordige, oben ihr schönen Platz vernommen. Kinderjahren hab euch angeboren. Mein Gott, reihe Mame euch verleuren. Wenn der Stub nicht stocken Fleck, Peigele ist euch weg. Oi, wie schnell bin ich schon alt geboren.
Isaac Bashevis-Singer aujourd'hui dans Mise en page, le magicien de Lublin, Yasha, le magicien, artiste, a décidé de prendre la route, il s'en va. Shavuot était passé. Yasha se préparait à prendre de nouveau la route. Pendant la première nuit passée à la maison, il dit des choses qui effrayèrent Esther. Qu'éprouverais-tu si je ne revenais pas ? Lui demanda-t-il. Que ferais-tu si je mourais sur la route ? Esther le fit taire en lui posant la main sur la bouche et le pria de ne plus jamais parler ainsi. Mais il insista. Ce sont des choses qui arrivent, tu sais. Tout récemment, j'ai escaladé le beffroi d'un hôtel de ville. J'aurais facilement pu glisser jusqu'à ce moment-là et à cet endroit. Il fit également allusion à son testament et lui recommanda de ne pas porter le deuil pendant trop longtemps s'il lui arrivait malheur. Puis, il lui montra une cachette où il avait enfoui quelques centaines de roubles en or. Esther lui reprocha de gâcher les quelques heures qu'il a restées jusqu'à la prochaine rencontre au jour des fêtes austères. « Eh bien, répliqua-t-il, suppose que je sois tombé amoureux de quelqu'un d'autre et que je vienne à te quitter. Que dirais-tu à cela ? Quoi ? Tu es tombé amoureux d'une autre ? Ne sois pas ridicule. Tu ferais mieux de me dire la vérité. » Il l'embrassa et lui jura un amour éternel. Ces scènes entre eux n'étaient pas nouvelles. Il aimait la taquiner en faisant toutes sortes de suppositions et la tourmenter en lui posant des questions énigmatiques. Combien de temps l'attendrait-elle s'il était jeté en prison ou s'il allait en Amérique ou s'il contractait l'aphtisie et se voyait enfermé dans un sanatorium ? Esther donnait toujours la même réponse. Elle ne pourrait aimer personne d'autre. Sans lui, elle ne pourrait plus rester en vie. Mais il avait toujours, souvent recours à des questions de ce genre. À présent, il demanda « Que se passerait-il si je devenais un ascète ? Et si, pour me repentir, je me murais dans une cellule sans ouverture, comme ce saint de Lituanie ? Me resterais-tu fidèle? Me donnerais-tu à manger à travers une fente du mur? Esther répondit, « Il n'est pas nécessaire de s'enfermer dans une cellule pour se repentir. » « Tout dépend du genre de passion que l'on essaie de maîtriser, » observa-t-il. « Alors, je m'enfermerai moi-même avec toi. » Tout finit par de nouvelles caresses, de nouveaux baisers, des protestations d'un amour éternel. Quand Esther s'endormit plus tard, elle eut un cauchemar terrifiant. Le lendemain, elle jeûna jusqu'à midi. Elle murmura calmement une prière qu'elle avait trouvée dans un livre. « Dieu Tout-Puissant, je suis votre, et mes rêves sont vôtres. » Elle glissa également six groschen dans la boîte à aumône de Reb Mayer, le faiseur de miracles. Elle demanda à Yasha de promettre solennellement de ne plus jamais la tourmenter par un bavardage aussi oiseux. Après tout, qu'elle connaisse un être humain, pouvait-il bien avoir de l'avenir? Tout était déjà réglé au ciel. Les jours de fête étaient passés. Yasha attela le chariot et fit ses préparatifs pour le voyage. Il amenait le singe, la corneille et le perroquet. Esther pleurait sans arrêt, au point d'en avoir les yeux gonflés. Un côté de sa tête la faisait souffrir et il lui semblait qu'un poids pressait son sein gauche. Bien qu'elle ne s'adonnât pas à la boisson pendant les premiers jours qui suivirent le départ de Yasha, elle ne cessa pas d'absorber des gorgées de liqueur de cerise afin de lutter contre l'abattement. Les couturières étaient victimes de la douleur. Elles trouvaient un défaut à chaque point de couture. Assez bizarrement, les jeunes filles aussi étaient de mauvaise humeur après le départ de Yasha. Il avait tant de chance. Il partit un samedi à la nuit tombée.
Sevastopol ist nicht weit von Simferopol, dort ist das Tanzierverein. Wer darf suchen, neue Klicken, ist das Tanzian am Tickel in Jankoye, Jan, Jan, Jan. Hey Jan, hey Jankoye, Jan, Bibi, hey Jankoye, hey Jankoye, Jan, Jan, Jan. Hey Jan, hey Jankoye, Jan, Bibi, hey Jankoye, hey Jankoye, Jan, Jan, Jan. Entfört jeden Affmann Kasche, wo's mein Bruder, wo's er brasch, es geht bei ihm der Traktor wie er baum. Die Mummelei bei der Kursilke, bei der Badamwallertiel, den Jankoye, Jan, Jan, Jan. Hey Jan, hey Jankoye, hey Jan, Mili, hey Jankoye, hey Jankoye, Jan, Jan, Jan. Hey Jan, hey Jankoye, hey Jan, Mili, hey Jankoye, hey Jankoye, Jan, Jan, Jan. Jeden kennen Handeln, essen fette Joich mit Manteln und nicht sein kein Arbeitsmann. Das kennen suchen nur die Sonne im jeden Schweizer und im Pony. Tut der Kucker Jan, Jan, Jan. Hey Jan, hey Jankoye, hey Jan, Mili, hey Jankoye, hey Jankoye, Jan, Jan, Jan. Hey Jan, hey Jankoye, hey Jan, Mili, hey Jankoye, hey Jankoye, Jan, Jan, Jan. Hey Jan, Billy, hey Jan, Koye, hey Jan, Koye, Jan, Jan, Jan. Hey Jan, hey Jan, Koye, hey Jan, Billy, hey Jan, Koye, hey Jan, Koye, Jan, Jan, Jan.
Mise en page. Aujourd'hui, Isaac Bashevisinger, le magicien de Lublin. Et nous avançons à petits pas dans le roman. Oh, nous n'aurons pas le temps de le terminer, non, parce que c'est un roman quand même qui fait à peu près 300-400 pages. Et les petits fragments que je vous livre se trouvent plutôt au début du roman, mais pour ne pas trop vous délivrer, bien sûr, comme ça, du mystère de ce roman. Alors, on continue. On arrive quand même, là, on est au chapitre 3. 4 même. Et Yasha vient de partir et il vient de quitter son village, il veut partir en tournée. Il a promis fidélité à sa femme, évidemment, mais sur la route, il s'arrête chez une de ses maîtresses. On l'y attend et apparemment le cycle des années, des mois, c'est le fonctionnement de Yasha. Les Sbargzi avaient attendu Yasha. Ni la mère, ni la fille ne s'étaient retirées pour la nuit. Elzbieta Bzarki, la veuve du forgeron, était une femme corpulente, bâtie comme une meule de foin. Ses cheveux blancs étaient épinglés en arrière et son visage, quoique trop large, exprimait sa douceur. Elle était assise en train de faire une patience. Bien qu'elle ne sût ni lire ni écrire, elle était devenue orpheline très jeune, sa connaissance des cartes attestait une ascendance aristocratique. Elle avait dû être belle, jadis, même à présent ses traits conservaient leur régularité. Le nez était bien formé et un peu retroussé, la bouche mince, fermement dessinée, et il ne lui manquait aucune dent, ses yeux brillaient. Mais la veuve avait un large double menton alourdi par un goitre qui descendait presque à la poitrine. Les seins avançaient comme un balcon, les bras étaient singulièrement gros et sans grâce. Le corps ressemblait à un sac bourré de chair qui eût présenté çà et là des boursouflures. Elle avait de mauvaises jambes et devait se servir d'une canne, même à l'intérieur de la maison. Le paquet de cartes était taché et froissé. Elzbieta marmonna pour elle-même. Encore l'as de pique. C'est mauvais signe. Il va se passer quelque chose, les enfants. Quelque chose va se produire. Quoi donc, mère? Ne sois pas aussi superstitieux, s'écria Magda. Magda avait déjà rangé ses affaires dans un coffre cerclé de cuivre jaune, un cadeau de Yasha. Elle avait près de la trentaine, mais paraissait plus jeune pour le public. Elle n'avait pas plus de 18 ans. Mince, le teint basané, la poitrine plate, elle semblait n'avoir que la peau sur les os. On avait peine à croire qu'elle fût la fille d'Elzbieta. Ses yeux étaient gris-vert, son nez camu, ses lèvres pleines et boudeuses, comme dans l'attente d'être baisée, ou comme celle d'un enfant qui va pleurer. La nuque était longue et fine, la chevelure d'un blond cendré, les pommettes hautes d'un rose vif. Sa peau était boutonneuse. Au pensionnat, on l'avait surnommée la grenouille. Elle avait été une écolière revêche, renfermée, sournoise, et qui se comportait de façon bizarre. Déjà, elle faisait preuve d'une remarquable agilité. Elle pouvait grimper à un arbre, exécuter les pas de la dernière danse à la mode, quitter le dortoir par la fenêtre, après qu'elle eut éteint la lumière, pour rentrer plus tard, par le même chemin. Magda parlait toujours du pensionnat comme d'un enfer. Elle n'avait aucune disposition pour les études et ses camarades se moquaient d'elle parce que son père était forgeron. Même ses professeurs ne lui ménageaient pas leur hostilité. Maintes fois, elle avait tenté de s'évader. Elle se querellait souvent avec d'autres élèves. Un jour, après une punition, elle avait craché au visage d'une nonne. À la mort de son père, elle quitta l'école sans avoir obtenu de diplôme. Peu après, Yasha l'a pris à son service comme assistante. Quand Magda était plus jeune, on lui avait dit qu'il suffirait d'un homme dans sa vie pour qu'elle fût débarrassée de ses boutons. Ils étaient manifestement dus à une frustration virginale. Mais, bien qu'elle fût la maîtresse de Yasha depuis des années, sa peau était toujours aussi laide. Magda ne tenait pas secrète sa liaison avec son patron. Chaque fois que Yasha passait la nuit chez les Bzarki, elle couchait avec lui dans le grand lit de l'alcôve. Le matin, sa mère leur apportait même du thé avec du lait. Elzbieta appelait Yasha « mon fils ». Jadis, Bolek, le frère cadet de Magda, furieux contre Yasha, avait juré de se venger, mais en fin de compte, il s'était résigné de la situation. Yasha aidait la famille et donnait de l'argent à Bolek, qui le dépensait en orgie ou en jouant aux cartes et aux dominos. Chaque fois que Bolek, dans son ivresse, menaçait de se venger de ce maudit juif qui avait déshonoré le nom de Bzarski, Elzbieta se frappait la tête de ses poings et Magda disait « Touche seulement un cheveu de sa tête et nous mourrons tous les deux. Tu me suivras dans la tombe, je le jure, sur la mémoire de père. » À ces mots, elle se redressait, sifflait et crachait comme fait un chat en présence d'un chien.
Gewinn an irgendwie a sod, wo Was David hat gespielt vor Gott, nur dir wird's nicht gewesen, als er Jeschua. Und man singt das euch, a fall, a soul, a mische berg hebt a kol, der duller meilig webt a halleluja. Deine Munde ist geworden schwach, der Schewe bot sich auf den Dach, ihr Chäin, die Levone, dein Refuhe. Und sie nimmt dein Guff, sie nimmt dein Kopf, sie schneit von deiner Haare zop und zieht von Mäuel a Robo, halleluja. Und heire, ich kenn dein Stil, ich bin geschlafen auf dein Deal, ich hab kein Mal nicht gelebt mit der Satznuhe. Nur ich seh dein Schloss, ich seh dein Thron, a Harz ist nicht kein Melechs Thron, es ist a kalte und a kalle, ja, halleluja. Ui, wie am Auto, sag mir eus, was tut sich dort in dein Scheuss, du wusch darfst dich schämen wie a Psoe. Und gedenk, wie ich hab in dir geruht, wie die Schiene glut in unser Blut und jeder rot im Tod, halleluja. Gott ist gar nicht da und Liebe soll sein Kolm roll, a Pust der Träum zerbrochen und mich hole. Sind ich kein Gewehen in Mitternacht, nicht kein bald Schuwe aufgewacht, nur an Elmte Kolkeure, halleluja. Und ab ich Keures rufst du mich, mit Shem Hawaii läster ich, nur meile, ich der Wart nicht kein Gehule. Nur es brennt sich heiß in jeden Oss, von Alef Beis, gor bis in Sof, die Heilige und Kalle, halleluja. Halleluja. Ich kein Sach, ich mach derweile, was ich mach, ich komm do wie ein Mensch, nicht kein Schaluje. Ich hab alles verloren, sei wie sei, will ich verleuben, Adonai, und schreien will ich heim, halleluja, halleluja, halleluja. Hallelujah, hallelujah.
Mise en page aujourd'hui avec Isaac Bashevis-Singer, le magicien de Lublin. Nous suivons Yasha en ce début de roman. Yasha est marié avec Esther, mais il a aussi Magda, cette maîtresse avec qui il va faire des tournées. Et puis on sait qu'il va s'acoquiner de temps en temps avec une des voisines de Magda, qui habite assez loin cependant, pas très loin de Varsovie. Et cette femme, femme d'un voleur, femme un peu étrange, il est fasciné par elle, est très amoureux. C'est Yasha, avec ses troubles, avec sa difficulté à se poser, ses rêves, bien sûr, c'est un jeune homme en quête de sagesse pourtant, mais avec une sagesse pleine justement de rebondissements. Oui, il y a une nouvelle femme dans ma vie, dit Yasha. Il éprouvait le besoin de se confier à quelqu'un. Avec Zeftel, il se sentait aussi libre qu'avec lui-même. Il ne craignait ni sa jalousie ni sa colère. Elle lui était aussi soumise qu'une paysanne l'est à son châtelain. Les yeux brillants, elle eut le sourire amer de ceux qui savent tromper mais prennent plaisir à l'être. « Je m'en doutais. Qui est-ce ? C'est la veuve d'un professeur. »«
Une veuve ?
Eh bien ? Eh bien quoi ?
L'aimes-tu ?
Oui, un peu. » Quand un homme dit « un peu », cela signifie beaucoup. Comment est-elle ? Jeune ? Jolie ?
Pas tellement jeune. Elle a une fille de 14 ans.
Laquelle des deux aimes-tu ? La mère ou la fille ?
J'aime les deux.
Zeftel crut s'étouffer, comme si elle avait avalé de travers. « Tu ne peux pas les avoir toutes les deux, mon gars. »«
Pour le moment, je me contenterai de la mère. »«
Et quoi, comme professeur, un docteur ?»
Il enseignait les mathématiques à l'université.
« Qu'est-ce que les mathématiques ?»«
Des chiffres. »
Elle prit un temps de réflexion. « Je m'en doutais bien. »«
Moi, tu ne peux pas me mener en bateau, je regarde un homme et je peux tout te dire de lui. »
Que penses-tu faire, l'épouser ?
Eh, c'est que j'ai déjà une femme.
Oh, qu'est-ce qu'une épouse pour toi ? Comment l'as-tu connue ?
Au théâtre. Quelqu'un me l'a présenté, ou plutôt non. Je lisais dans les pensées et je lui ai dit qu'elle était venue et tout le reste.
Comment le savais-tu ?
C'est mon secret.
Soit. Et après ?
Elle est tombée amoureuse de moi. Elle veut tout quitter pour partir à l'étranger avec moi.
Comme ça ?
Simplement.
Elle veut m'épouser.
Épouser un juif ?
Elle veut que je me convertisse un peu.
Rien qu'un peu, hein.
Pourquoi dois-tu quitter ce pays ?
Le visage de Yasha s'assombrit brusquement.
Qu'est-ce qui me retient ici ? Depuis 25 ans que j'exécute mon numéro, je suis toujours aussi pauvre. Pendant combien de temps encore pourrais-je marcher sur la corde raide ? 10 ans tout au plus ? Ils me couvrent tous d'éloges, mais personne ne veut payer. Dans les autres pays, on apprécie les artistes comme moi. Là-bas, un garçon qui connaît seulement quelques tours de passe-passe devient riche et célèbre. Il se produit devant l'entourage du roi, il voyage en grand équipage. Je serais autrement considéré ici même en Pologne si mon nom devenait célèbre en Europe occidentale. Comprends-tu ce que je te dis ? Dans ce pays, ils imitent tout ce qui vient de l'étranger. Un chanteur d'opéra peut crier comme un hibou, mais s'il a chanté en Italie, chacun hurle « bravo ».
Oui, mais tu auras à te convertir.
Est-ce si difficile ? Tu te signes et ils t'aspergent d'eau. Comment puis-je savoir quel Dieu est le bon ?
Personne n'est allé au ciel. De toute manière, je ne prie pas.
Une fois que tu es catholique, tu pries, c'est tout.
À l'étranger, personne ne s'en soucie. Je suis un magicien et non un prêtre.
À propos, il existe une nouvelle mode maintenant. On éteint les lumières et on évoque les esprits des morts. On s'assoit autour d'une table, les mains posées dessus, et la table se soulève. Tous les journaux en parlent.
Et ce sont vraiment des esprits ?
Ne sois pas ridicule. C'est le médium qui fait tout. Il avance le pied, soulève la table. Il fait claquer son chapeau, son gros orteil. Et les autres croient que les esprits envoient des messages. Des gens très riches participent à ces séances, les femmes surtout.
Suppose qu'ils aient perdu un fils. Ils veulent entrer en rapport avec lui. Ils donnent de l'argent au médium et celui-ci fait apparaître l'esprit du fils.
De surprise, Zeftel écarquilla les yeux.
Vraiment ?
Imbécile !
C'est peut-être de la magie noire.
Les médiums ignorent tout de la magie noire.
À ce qu'on m'a dit, il y a un homme à Lublin qui fait apparaître les morts dans un miroir noir. On m'affirme que je pourrais y apercevoir les bœufs.
Alors, pourquoi n'y vas-tu pas ?
L'homme te montrera une image et te dira que c'est les bœufs.
Eh bien, il montre donc quelque chose.
Cet idiot, fit Yasha, qui se surprenait à discuter de ces choses avec quelqu'un comme Zeftel.
« Je peux faire apparaître qui tu veux dans le miroir, même ta grand-mère. »
« Dieu n'existe pas, c'est ce que tu veux dire. »«
Bien sûr, il existe, mais personne ne lui a parlé. Comment Dieu pourrait-il parler ? S'il parlait en yiddish, les chrétiens ne comprendraient pas. S'il parlait en français, les anglais ne seraient pas contents. La Torah prétend qu'il parlait en hébreu, mais je n'y étais pas pour l'entendre. Quant aux esprits, ils existent, mais aucun magicien ne peut les évoquer.
Et l'âme, alors ?
Oh, j'ai peur.
Peur de quoi ? la nuit. Quand je suis couché, je ne peux pas fermer les yeux. Tous les morts défilent devant moi. Je revois maman, tandis qu'on la descend dans la tombe, toute blanche qu'elle est. Pourquoi sommes-nous en vie, d'ailleurs ? Tu me manques tellement, Yasha. Je ne veux pas te donner de conseils, mais cette femme chez les gentils t'entraînera en enfer. Yasha gronda. Pourquoi le ferait-elle ? Elle-même ! Ce n'est pas bien. Tu peux faire tout ce que tu veux, mais tu dois rester un juif. Que deviendra ta femme ? Mais que fera-t-elle si je venais à mourir ? Le mari meurt et 4 semaines plus tard, la femme se précipite de nouveau sous le dé nuptial. Zèvent-elle. Je serai franc avec toi. Il n'y a pas de secret entre nous. Je veux tenter ma chance. Et moi ? Que deviendrai-je ? Si je deviens riche, je ne t'oublierai pas non plus. Si, tu m'oublieras. À l'instant même où tu auras franchi le seuil, tu m'auras oublié. Ne crois pas que je sois jalouse. Quand je t'ai connue au début, je perdais la tête, je t'aurais lavé les pieds, j'aurais bu l'eau du bain. Mais quand j'ai appris à te connaître, je me suis dit, Zèvent-elle, c'est un désastre, une catastrophe. Je suis une femme sans instruction, je ne sais pas grand-chose. Mais j'ai la tête sur les épaules, je réfléchis beaucoup. Et il me vient toutes sortes de pensées. Quand le vent siffle dans la cheminée, je sombre dans la mélancolie. Crois-moi si tu veux, Yasha. Mais récemment, j'ai même pensé au suicide. Pourquoi cette idée plutôt qu'une autre ? Simplement parce que je n'en pouvais plus et que j'avais une corde à portée de la main. J'apercevais un crochet fixé à une poutre. Ce crochet-là, près de la lampe, je grimpais sur le tabouret. Il s'en est fallu d'un rien. Et puis, je me suis mis à rire. Et pourquoi ? Sans aucune raison, tu tires sur la corde et tout est fini. Yasha, emmène-moi avec toi à Varsovie. Et les meubles ? Je vendrai tout. Ce sera une bonne affaire pour quelqu'un. Mais que feras-tu à Varsovie ? Ne t'inquiète pas. Je ne vivrai pas à tes crochets. Je m'en irai, comme la mendiante de la légende. Frapperai à une porte et dirai « Ici sera ma demeure ». On peut laver du linge et porter des paniers, n'importe où. Merci à vous tous d'avoir suivi cette émission autour d'Isaac Bashevis-Zinger, le magicien de Lublin. Nous nous retrouverons la semaine prochaine pour une nouvelle émission. Merci à Kevin qui m'a aidé à monter cette émission. Un grand salut à Didier qui se repose encore mais qui reviendra bientôt. Nous l'embrassons et je vous embrasse également et je vous dis à très vite pour votre émission mise en page de littérature et de chansonnettes. Salut à toutes et à tous.